BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaoud Abdelhaim, notre globetrotteur, Stéphanie Colo, qui elle nous projettera cette fois-ci dans le futur. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Et si, en matière de politique économique et sociale, on essayait autre chose, des vraies politiques de rupture, au moins dans la méthode, sachant que innover consisterait peut-être à revenir à des pratiques anciennes, abandonner la planification. Par exemple, c'est ce que nous verrons avec notre premier invité, Jacques Sapir, bonjour.
Bonjour.
Jacques, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS et directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation. Vous publiez « Le grand retour de la planification ». Point d'interrogation aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis, pour mettre en place de nouvelles politiques, il faut peut-être aussi commencer par analyser pourquoi les anciennes ne fonctionnent pas et repartir de nouvelles grilles de lecture des défis à relever. C'est sans doute ce que devront faire notamment les partis de gauche et pourquoi pas à partir du livre de notre deuxième invité, François Dubet. Bonjour François Dubet.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS et vous publiez « Tous inégaux ». Tous singuliers aux éditions du Seuil. On commence avec vous, Jacques Sapir, mais bon sang de bonsoir, en quoi la planification serait-elle moderne?
Regardez ce qu'a dit et ce que fait Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a recréé un haut commissariat à la planification. Bon, alors, bien entendu, c'est pas un vrai haut commissariat à la planification. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais on voit bien que quand il parle, par exemple, de la nécessité de faire un plan France 2030 qu'il nous a présenté, il rejoint à nouveau l'idée de planification. Donc, en réalité, cette idée et cette pratique de la planification sont des idées et des pratiques qui sont beaucoup plus vastes que des choses qui seraient uniquement attachées à la gauche. Il faut rappeler que en 1915-1916, la planification, elle a été mise en place par des hommes politiques du centre, voire du centre droit. Bon, bien sûr, il y avait Albert Thomas, le socialiste, mais il y avait surtout Eugène Clémentel.
Alors, en fait, la planification, ça paraissait vraiment ringard entre guillemets, parce qu'on était tous restés sur cette planification à la soviétique, mais en fait, il y a tout un tas de formes de planification antérieures dans l'histoire qui ont bien fonctionné.
Oui, tout à fait. Et si vous voulez, comme j'ai été au début de ma carrière un grand spécialiste de la planification soviétique, par la force des choses, puisque je travaillais sur l'Union soviétique, j'ai tout de suite mesuré la différence qu'il y avait entre ce qu'on appelle la planification dite décentralisée ou indicative, et j'ai décidé de ne pas parler de la planification soviétique et justement de me concentrer sur ces exemples de planification dite décentralisée, parce qu'il me semble extrêmement à la fois intéressant, mais surtout très pertinent.
Qu'est-ce que vous appelez la planification décentralisée?
Alors, si vous voulez, il faut comprendre que la planification soviétique, c'est une planification où tous les prix sont fixés, et grosso modo, le plan, le Gosplan, dans l'histoire de l'Union soviétique, remplace complètement le marché. La planification décentralisée, elle ne remplace pas le marché, mais elle vise à l'orienter. Et c'est là la grande différence.
Alors, la planification, vous citez des moments particuliers de l'histoire auxquels ça a marché, et on pense notamment à tous les moments de reconstruction, quand il a fallu repartir après la Première Guerre mondiale, après aussi la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'est plus pendant la guerre. Si vous voulez, il y a quand même eu un très fort mouvement de retour à la normale après le 11 novembre 1918. Peut-être à tort, peut-être on n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait la reconstruction et de ce qu'impliquait plus globalement la construction d'un ordre politique qui serait viable en Europe, mais ça c'est un autre problème. Après, évidemment, il y a eu la planification de guerre de 1939 à 1945 et surtout des expériences très importantes de planification dans la reconstruction en Europe, mais aussi dans le développement de pays. Le Japon et l'Inde.
Alors, vous développez longuement dans votre livre deux cas passionnants qui sont le cas du Japon et le cas de l'Inde.
Oui, tout à fait. Alors, le cas de l'Inde, c'est quand même très très fascinant, parce qu'on voit que la planification est une forme d'impératif. Vous savez, ce fameux impératif moral dont parlait le général de Gaulle, et qui vient de l'ensemble du spectre politique. On trouve à la fois des grands serviteurs de l'État, des ingénieurs, qui sont pas spécialement proches du marxisme, et on trouve évidemment les gens, disons, l'aile gauche du parti du Congrès, et on voit très bien que la planification, elle est conçue dans la recherche de la souveraineté indienne. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et au Japon, il est tout à fait fascinant de voir que c'est une forme d'insurrection de l'élite des hauts fonctionnaires. Vous savez, ce que les Japonais appellent les bureaucrates. Alors, chez nous, c'est un gros mot de parler de bureaucrates, mais il faut quand même rappeler que ils conçoivent la bureaucratie au sens weberien du terme, c'est-à-dire quelque chose, au contraire, de très positif. Et là, il y a une forme de d'insurrection de ces fameux bureaucrates contre la domination des militaires, et qui va surtout se développer donc après-guerre et permettre en partie la fameuse croissance explosive du Japon de la mi des années 50 jusqu'à la fin des années 70.
Mais donc ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le fruit de situations particulières, c'est pas un modèle qu'on plaque comme ça, et donc il y a eu aussi une planification à la française.
Oui, tout à fait.
La France a été une championne de la planification avant de la brûler, quoi.
Tout à fait. Alors, on a été des champions de la planification parce qu'on s'intéressait pas trop à ce qui se faisait ailleurs. Il faut quand même le rappeler, on a toujours été très centré sur nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable tradition de la planification en France. Ça se voit d'ailleurs dans les avatars qui vont transformer la planification qui s'est appliquée pendant la Première Guerre mondiale dans le projet du plan pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L'emprunt aussi à des pratiques américaines, qui elle-même était d'ailleurs le fruit d'une imitation de pratiques françaises. Et surtout, le point qui est très intéressant, on parle beaucoup de Jean Monnet, à juste titre d'ailleurs. J'ai découvert, en travaillant sur les archives, un Jean Monnet assez différent de ce qu'il sera après 1950. Mais on oublie que celui qui a porté en fait l'idée de planification, c'est Pierre Mendès-France. Et que c'est Pierre Mendès-France qui, dès 1944, dit au général de Gaulle: il va falloir reprendre les hommes de l'appareil de la direction générale, des entreprises et des investissements qui avaient travaillé sous Vichy, parce que ce sont les seuls compétents pour faire de la planification. Bon, Mendès va rompre avec De Gaulle, c'est une autre histoire, mais c'est quand même lui qui...
Jacques Sapir, en quoi la planification serait la réponse aux difficultés économiques de la France d'aujourd'hui?
On le voit très bien sur deux points. Premier point, pour assurer la transition énergétique. On ne peut pas se fixer un objectif aussi important. Si vous voulez arriver à, grosso modo, zéro émission de carbone net, d'ici 20 ou 30 ans, sans concevoir absolument une nouvelle forme à la fois d'organisation de l'économie, mais surtout de production de l'énergie. Donc là, il est très clair, d'une certaine manière, que la planification va s'imposer. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la crise de la Covid, elle nous a fait prendre conscience de l'affaiblissement industriel de la France, et si on veut reconstruire une industrie et, d'une certaine manière, garantir une forme de souveraineté économique, au moins dans certains secteurs, eh bien, il va falloir que l'État fixe des axes de direction, fixe des formes d'encouragement aux entreprises. Tout cela, ça s'appelle la planification.
Mais est-ce que c'est pas aussi le moyen d'allonger notre horizon, alors que on a cessé de le voir se raccourcir? On voit bien que sur tous les sujets dans lesquels il a fallu envisager des investissements à long terme, par exemple, le marché n'envoyait pas forcément les bons signaux. Je pense au prix de l'énergie, par exemple, où on n'a jamais été capable d'intégrer les prix des investissements futurs, etc.
Tout à fait. Donc, tout à fait. Si vous voulez, et ça, c'est une phrase de Pierre Massé quand il dit le plan ou l'anti-hasard. Il montre bien qu'il y a la nécessité de surmonter des échecs de marché. Si vous voulez, le marché peut être performant à court terme et catastrophique à long terme. Et c'est en reconstruisant dans le temps, du temps court au temps long, une forme de continuité des objectifs que la planification est quelque chose de tout à fait décisif. Un autre point sur lequel elle peut être tout à fait décisif, dans la gestion de ressources rares. Or, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans un monde de pénurie. C'est pas simplement le problème de la guerre en Ukraine qui provoque ça. Ces pénuries avaient commencé avant, du fait de la Covid, et on voit bien que pour la gestion de la pénurie, là encore, la planification est un outil important.
Est-ce que la planification est compatible avec les règles de l'Union européenne ?
En l'état, non. Il faut le dire très franchement. Maintenant, est-ce que l'Union européenne peut évoluer là-dessus ? On peut l'espérer, mais après, c'est vrai que ça va poser un véritable problème, et je suis persuadé, quant à moi, que si on est sérieux sur nos objectifs à la fois de transition énergétique et de reconstruction d'une partie de l'industrie française, nous serons obligés à prendre du champ par rapport à un certain nombre de réglementations. Mais je crois que c'est globalement vers quoi on tend de toutes les manières.
Alors, regardons maintenant, peut-être d'une autre façon, un des grands sujets, un des grands débats de politique économique, ce débat autour des inégalités, François Dubé. Et dans l'introduction de votre livre, bon, vous citez l'échec, finalement, de la gauche. Alors, est-ce qu'on peut parler de trahison, etc. Pour quelles raisons ? Et une des explications que vous donnez, en fait, c'est que, vous dites, la gauche, elle n'a pas suffisamment perçu une mutation essentielle, la transformation du régime des inégalités sociales en France.
Oui, mon raisonnement, d'ailleurs, qui court à peu près la même période historique que celle qu'évoquait Jacques Sapir, c'est de dire, d'une certaine façon, jusqu'aux années 80, on perçoit les inégalités en termes de classe sociale. Voilà, ouais. Pour dire les choses de manière extrêmement simple, c'est-à-dire le travail définit le revenu, qui définit une culture, une conscience collective, etc. C'est comme ça qu'on les voit. Ce qui ne veut pas dire que la photo est juste, mais c'est comme ça qu'on les voit, qu'on les pense, et on les pense d'ailleurs à peu près de tous les côtés. Dans ce système-là, je crois qu'il y a, évidemment, c'est un système qui a engendré une représentation politique, c'est quand même, il faut le rappeler, c'est-à-dire, le vote est grosso modo un vote de classe, avec beaucoup de nuances, mais c'est grosso modo un vote de classe. En tout cas, l'offre politique est une offre de classe, d'une certaine façon. Deuxième conséquence aussi, c'est que ce modèle repose sur une conception de la justice qui est, au fond, la conception un peu organique de la redistribution de la richesse produite par les travailleurs. Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est de rendre aux travailleurs une partie de la richesse qui a été produite. Et globalement, ça a marché. Globalement, ça a marché, les inégalités se sont réduites, etc. Et on a vécu comme ça. Moi, j'ai pensé le monde comme ça, comme tous mes collègues sociologues, de Raymond Aron au marxiste, pour dire les choses, on voyait le monde de cette manière.
Sauf que ce que vous dites, voilà, c'est qu'on est passé de ce régime d'inégalité de classe à ce que vous appelez un régime d'inégalité multiple.
Je crois que le problème, c'est que ce système a explosé. La question de savoir si les inégalités se sont accrues ou pas est une question, de mon point de vue, très compliquée, parce que ça dépend pour qui et lesquelles. Inégalités. C'est pas.
C'est-à-dire, quand on parle de ça, on dit on prend les 1% les plus
riches. Voilà, on prend les 1% et le reste. Et, voilà, et pour un sociologue, malheureusement, les inégalités qui comptent, c'est le reste.
Ouais.
C'est ça qui fait descendre les gens dans la rue. C'est pas les revenus de Mbappé qui font descendre les gens dans la rue, c'est les revenus du voisin. Bon. Et ce système a explosé, alors pour des raisons économiques que tout le monde connaît, fin de la grande industrie, développement d'une consommation de masse, enfin tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens, ce que j'ai fait pendant beaucoup d'enquêtes, au fond, ils vous disent « je suis inégal en tant qu'individu ». Alors que l'inégalité était une expérience collective, nous sommes inégaux en tant que paysan, d'ouvrier, je suis inégal en tant qu'individu, et je suis traversé par plein d'inégalités. C'est-à-dire, je suis inégal en tant que travailleur, en tant que provincial, en tant qu'une femme, en tant qu'un jeune, en tant qu'un vieux, en tant qu'un immigré.
Ce qui paraît dingue, François Dubé, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on appelait avant différence, aujourd'hui, est ressenti comme une inégalité.
Et voilà. Mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas jugement moral là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on peut l'expliquer de mille manières. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à l'école, en montrant qu'au fond, grand changement scolaire, c'est le mode de production des inégalités à partir des performances successives et individuelles des individus. Si vous regardez les années 50, pour l'essentiel, la naissance fixe le destin scolaire d'un individu à part pour quelques héros qu'on exhibait, mais pour les autres, les femmes, les hommes, les ouvriers, les travailleurs, les lycées, l'école populaire, etc. Donc, tout ce monde a été bousculé et l'expérience des inégalités est vécue, c'est très très impressionnant. Au fond, l'émotion collective, c'était l'exploitation. Aujourd'hui, c'est le mépris. Tout le monde se sent méprisé. Et les gilets jaunes, évidemment, se sentent méprisés, mais les profs se sentent méprisés. Enfin, tout le monde se sent méprisé parce que la singularité de mes inégalités n'est pas prise en compte. Elle ne peut pas l'être, puisqu'elle est individuelle. Alors ça a des conséquences. À mon avis, ça en a deux, qui font que le climat, de mon point de vue, dans lequel nous sommes, est un peu pénible, pour moi, qui suis peut-être déjà trop attaché au vieux système. C'est d'une part... Le fait que la représentation politique explose complètement, elle a littéralement explosé avec ce thème permanent que je ne suis pas représenté, personne ne parle pour moi.
Oui, mais François Dubé, c'est là où c'est insoluble, c'est que dès l'instant où l'inégalité que vous ressentez est subjective.
Pas forcément.
Pour un politique, avant on avait des inégalités mesurables.
Oui, objectives. Si je voulais faire l'historien, ce que je ne ferais pas. La création d'un régime d'inégalité de classe, ça s'est pas fait en 3 semaines. Hein.
Ouais.
On a eu des crises, des communes, des révolutions. Ça s'est pas fait comme ça. Donc, l'offre politique, ça s'est pas faite comme ça, et qui était là, à peu près la même dans tous les pays comparables, ça s'est fait comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. La représentation politique explose, et tout le monde dit, on n'est pas représenté, personne ne parle pour nous, etc., etc. La deuxième chose, évidemment, c'est que la conception de la justice, qui était la réduction des inégalités de conditions, est devenue l'égalité des chances d'accéder à des positions inégales. Et ça me fascine de voir à quel point, en 30 ans, ça c'est... Quand vous dites justice sociale, tout le monde pense égalité des chances d'accéder à des positions inégales, et donc tout le monde se sent discriminé. Parce que, au fond, je n'ai pas bénéficié de l'égalité qui me permettait de gagner la partie. Alors, moi je me borne à dire que ça pose un énorme problème, parce que si l'on veut plus d'égalité, ou si l'on veut lutter contre les inégalités, il faut quand même se sentir... Alors, j'utilise de manière un peu sentimentale le troisième terme du triptyque républicain, mais il faut un peu de fraternité. Or, ça n'est plus la fraternité des travailleurs qui, pour, dans un langage saint-simonien, si vous voulez, sont les ruches, sont les abeilles de la même ruche. C'est plus comme ça qu'on voit le monde. Là, ça s'est mondialisé, ça a explosé. Et de l'autre côté, ça reposait sur un imaginaire national qui méritait de faire des sacrifices pour des gens dont on postulait qu'ils étaient comme
nous. Ce que vous expliquez...
Pour cet imaginaire national.
Ben oui.
Parce que là, lui aussi vole en éclat.
Là, ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, dès l'instant où les inégalités sont vécues comme des épreuves individuelles, la fraternité n'a pas de sens, faire société n'a pas de sens.
Alors si, parce que tout le monde, malgré tout, c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu optimiste. On peut dire qu'on traverse un moment difficile. Le moment difficile, d'un point de vue historique, ça peut durer. Mais enfin, quand même. C'est que, évidemment, vous et moi, on veut vivre avec les autres, on veut vivre pacifiquement, etc. Mais on manque et de la représentation politique, pour le moment, qui n'est plus organisée sur ce thème-là, et au fond, d'un imaginaire de justice. Parce que la justice sociale... On peut poser la question un peu à l'envers, de mon point de vue, c'est quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour l'égalité des autres ? Voilà. Alors, dans la société de classe, je suis prêt à consentir des sacrifices pour l'égalité des autres. Aujourd'hui, on a un peu de mal. Alors, moi, je ne suis pas totalement désespéré. Bon, si j'avais des solutions claires, je serais probablement candidat à l'élection présidentielle, mais j'en ai pas. Mais il y a quand même un certain nombre de chantier.
Oui, mais ce que vous
montrez, peut imaginer.
Alors, on va y venir, mais ce que vous montrez quand même, c'est que le fait qu'on se sente tous différents, c'est que le débat sur les inégalités, finalement, se transforme systématiquement en querelle d'identité.
Oui, les inégalités deviennent des affaires d'identité parce que je suis inégal en tant que... Et ça pose d'ailleurs un problème philosophique assez compliqué, mais qui n'est pas que philosophique, un problème pratique. C'est que Il y a, aujourd'hui, il y a un désir de reconnaissance de sa singularité. Je veux être reconnu comme immigré, comme femme, comme homosexuel, comme vivant en province, peu importe. Mais je ne peux reconnaître la singularité d'autrui que si je suis certain de ce que nous avons de commun. C'est le paradoxe, c'est que la reconnaissance, je peux reconnaître une singularité si je suis sûr qu'elle ne menace pas ce que nous avons de commun. Autrement, c'est un sport de touristes, si je peux me permettre, la reconnaissance des singularités. Et là-dessus, il y a peut-être des chantiers aujourd'hui qu'il faudrait
alors justement
construire, mais il faut les construire Il faut pas avoir les yeux rivés dans le rétroviseur. Enfin, je veux dire.
Ah, mais ça tombe bien parce qu'il y a la planification va nous aider à prévoir sur des années, voire des décennies.
Non, mais ce qui est intéressant dans l'affaire de la planification, à laquelle je crois on n'échappera pas, c'est qu'elle va supposer des fortes régulations, etc. Et si le projet de planification se heurte à une société qui est aussi explosée que celle-là, il n'est pas exclu, parce que la planification reposait parce qu'il y avait des patrons nationaux qui défendaient l'industrie nationale, une classe ouvrière internationaliste dans la tête, mais pas tant que ça dans la pratique, un sentiment de destin collectif. Autrement, vous planifiez, ça devient une affaire de technocrate, et en général, je crois que ça n'intéressera personne.
Mais donc, le préalable, François Dubet, c'est de re-solidifier notre société.
Je crois que le préalable, moi je crois qu'il y aurait des choses assez simples à faire.
Ouais.
D'abord, il faudrait peut-être simplifier les systèmes de prélèvement et de redistribution de manière à ce qu'ils soient lisibles. Moi, je suis très frappé dans les enquêtes que je fais. Les gens sont de bonne foi, ils vous disent je sais plus ce que je paye, je sais plus ce que je reçois, j'y comprends rien, ouais. C'est incompréhensible. Et comme la solidarité, c'est un vieux raisonnement, au fond, durkheimien, enfin, c'est de dire, c'est je sais ce que je dois aux autres et je sais ce que les autres me doivent. Aujourd'hui, plus personne n'est foutu, si je peux me permettre, de le savoir. Donc, tout le monde a le sentiment d'être dupé.
Personne n'est sûr qu'il remplit bien sa déclaration d'impôt.
Et vous avez
30% des allocataires de prestations sociales qui ne les touchent pas.
Qui ne les touchent pas. Et vous pouvez imaginer que, comme les frais médicaux sont gratuits, ils ne coûtent rien.
Ouais.
C'est quand même un peu excessif. Bon. Savoir aussi la définition des riches. Le discours sur les 0,1%, je suis pas, je veux dire, si on taxe plus les 0,1%, j'ai trop rien à redire, mais je crains qu'il faille descendre un peu en dessous des 0,1%, mais dans un système comme ça, voilà. Donc, je crois aussi qu'il faut ne pas tout abandonner à l'idéal de l'égalité des chances, parce que l'idéal de l'égalité des chances, c'est quand même, on utilise en France le mot libéral comme une insulte et ça me gêne beaucoup, mais c'est proprement libéral dans le sens où la bonne société, une société dans laquelle la compétition est équitable et le vainqueur ne doit rien au vaincu. Je crois que la priorité, c'est le destin du vaincu. C'est pour que les vainqueurs soient acceptables, il faut que les vaincus s'en sortent le mieux possible. Donc, il y a des efforts politiques et idéologiques là-dessus à faire. Et puis, il me semble que je crois qu'on est encore un peu condamné pour un petit moment à vivre dans des nations. Moi, je suis personnellement très très pro-européen, je crois que c'est quand même, il va falloir agir à ce niveau, mais on ne peut plus défendre la nation dans cet imaginaire invraisemblable qui ne correspond plus à ce que je croise dans la vie de tous les jours. Donc, alors, ces efforts-là peuvent paraître absurdes, mais quand vous regardez l'histoire sociale à la fin du 19e siècle, elle n'était pas très différente. Au fond, les gens se posaient la question, est-ce que les protestants, est-ce que les juifs, est-ce qu'ils sont partie de la nation? Ils ont été absorbés par cet imaginaire national. On pourrait absorber cet imaginaire national. Mais ce qui me frappe, c'est que, au fond, nos catégories politiques restent, elles dérapent, parce qu'au fond, leur imaginaire est celui d'un monde qui n'existe plus.
L'ancien monde des classes.
Et qui ne reviendra pas.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos livres, Jacques Sapir, Le Grand Retour de la Planification. On a presque envie d'enlever le point d'interrogation. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy et puis François Dubet. Tous inégaux, tous singuliers. Repenser la solidarité aux éditions du Seuil. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Bélin Houda, Abdelhaïm, Stéphanie Collo. Et puis tout de suite, on démarre bien évidemment avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique lui aussi attitré de la Société d'économie politique. Et on commence avec le choix de Christian, le livre de Léo Cohen, 800 jours au ministère de l'impossible, aux éditions Les Petits Matins. Mais quel est ce ministère de l'impossible?
Le ministère de l'impossible, c'est comme ça que Robert Poujade, le premier ministre de l'Environnement, l'avait baptisé. Et donc, Léo Cohen, il est intéressant parce qu'il a été conseiller de Barbara Pompili quand elle était secrétaire d'État à la biodiversité sous François Hollande, et conseiller aussi de François de Rugy, ministre de l'Environnement, d'Emmanuel Macron. Donc, il a les deux majorités, entre guillemets, de droite, de gauche, et donc, il va pouvoir nous donner l'envers du décor, parce que conseiller, c'est vraiment, il est au cœur de la machine politique administrative française. Et en gros, le bouquin, c'est les 12 façons qu'on a en France de bloquer toute avancée écologique. C'est comme ça que le livre est construit. Je dis tout de suite, c'est un livre qui nous donne vraiment l'envers du décor. C'est bien écrit, c'est vif. On apprend plein de petites choses sur le fonctionnement de l'État et de grandes choses sur le fonctionnement de l'État. C'est vraiment un livre très, très intéressant. Donc, voilà, il nous donne plein d'exemples. Il nous dit, par exemple, les passoires thermiques. Donc, tous les gouvernements veulent rénover les passoires thermiques. Ouais. Donc, il dit, on essaye de trouver une bonne mesure. L'inspection générale des finances, vraiment des Khmer verts, nous donne une solution. Donc, il dit, par exemple, à chaque fois qu'on vend une passoire thermique, le notaire pourra garder jusqu'à 5% du montant de la transaction pour les donner à l'acquéreur pour qu'il fasse sa rénovation thermique. Et là, il dit, négociation, permanence, les parlementaires, ça, hein, 100 heures de travail et... On arrive à l'Assemblée nationale, tous les députés La République En Marche vident le texte de sa substance. Julien de Normandie, ministre du Logement, massacre le texte. Bon, ça, bataille générale, ça finit évidemment en arbitrage en interministériel auprès du Premier ministre. Et Édouard Philippe dit, ok, on va mettre la mesure en œuvre, mais alors, le temps qu'elle soit mise en œuvre, toute la planète aura cramé trois fois déjà. Donc voilà. L'impossibilité de penser le temps long face à la pression de politique ou lobbyiste de court terme, voilà une des choses qu'on n'arrive pas à faire en France. Il nous dit pourquoi les solutions écologiques n'arrivent pas à progresser en France. Il nous dit la taxe carbone. Regarde, la taxe carbone, c'est une bonne idée. Plein de pays mettent en œuvre la taxe carbone, ça se passe très bien. Nous, on a les gilets jaunes. Pourquoi? Et là, 2017, il est donc chez François de Rugy, et il s'aperçoit de quoi? Il s'aperçoit que pour boucler le projet de budget de 2018, Bercy, il manque 2 milliards. Et donc, ils disent, où est-ce qu'on va trouver les 2 milliards? On n'a qu'à monter plus vite sur la taxe carbone. Mauvaise décision, manque de chance, ça va provoquer les gilets jaunes, ça va provoquer l'arrêt de toute augmentation de la taxe carbone, et Emmanuel Macron est obligé de cracher 10 milliards. Donc, voilà, ils ont voulu en gagner 2, ils en ont perdu 10. Donc, voilà, il nous dit aussi... principe de Tinbergen. Il y a Tinbergen, économiste hollandais. Si vous avez un objectif, vous avez un instrument. Si vous avez un autre objectif, il faut prendre un autre instrument. Un seul instrument, c'est-à-dire la taxe carbone, à la fois pour faire rentrer des recettes fiscales et à la fois pour changer les comportements, ça marche pas. Il fallait pas faire ça. Plein de choses. C'est absolument fabuleux. Tous nos fonctionnaires, une grande majorité de nos fonctionnaires n'ont absolument aucune sensibilité écologique. Donc il dit ça, c'est un vrai blocage. Les lobbyistes, bien évidemment, on s'y attend. Et il termine le livre en disant, il faut, puisque les politiques n'arrivent pas à avancer, il faut plus associer les citoyens. Il a soutenu la Convention citoyenne pour le climat, mais il en faut une vraie. Et il termine avec une petite pique auprès des ONG écolo. Il a franchement pas supporté, qu'au moment des Gilets jaunes, il ne se soit pas monté au créneau pour défendre le principe de la taxe carbone. Association des citoyens, si les politiques n'y arrivent pas, on lève le rideau derrière le fonctionnement du pouvoir en France, c'est fascinant.
Jean-Marc Daniel.
Oui, c'est un livre que j'ai trouvé à la fois sympathique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christian. Je pense qu'on lève le rideau qu'il a vu. C'est-à-dire, il était quand même jeune conseiller. Il dit, j'ai eu 30 ans. Vous imaginez pas quand même qu'on donne vraiment le pouvoir dans ce pays à un gamin de 30 ans et qu'un énarque qui a 45...
Ben, 50... Je crois que si.
Moi, Jean-Marc, il y a longtemps que vous avez quitté l'administration.
Oui, mais
je crois que si.
Un énarque de 45-50 ans ne se laisse pas avoir par un gamin de 30 ans qui arrive en disant « je suis écolo », tout ça. Je crois qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui lui ont échappé. Alors, par ailleurs, il se définit comme étant un écolo responsable, réalo, tout ça. J'ai soutenu l'action de Daniel Cohn-Bendit et tout ça. Et en réalité, tout ce qu'il décrit sont quand même des choses qui sont, à mon avis, mortes, mort-nées, parce qu'elles sont inapplicables. Donc, le passage sur la taxe carbone, il y a quand même une moulinette qui se contente pas uniquement d'un arbitrage de coin de table sur le budget. Il manque de milliards, on va augmenter la taxe carbone. La façon dont est construit le budget en France est un peu plus compliqué. Donc c'est à la fois un livre sympathique, mais un côté un peu...
Est-ce qu'il parle de politique un peu quand même
Oui. D'ailleurs, il rend hommage à ces deux ministres qui ont été François Drugy, alors que celui-ci a été assez abondamment critiqué.
C'est quand même une machine à avaler des couleuvres, ministère de l'environnement.
Oui. Alors il dit, écoutez, il y a deux ministères qui ont une mission transversale et tout ça, c'est Bercy et le ministère de l'écologie. Et à Bercy et le pouvoir, à l'écologie et l'utopie, donc on n'y arrive pas vraiment. Mais c'est un peu Fabrice Del Dongo, vous savez, vous n'aimez pas Stendhal, mais c'est un peu Fabrice Del Dongo pour moi, la bataille de Waterloo.
Mais comment il balance Jean-Marc Daniel? Non, j'aime pas Stendhal, ça m'ennuie.
Voilà, donc j'ai marqué un point là, vous êtes humilié définitivement.
Ouais, ces petites histoires.
Mais je reviens au centre du livre, quand même. Oui. Je pense quand même que oui, il y a une vision un peu biaisée et un peu naïve. Bon. Il y a un côté un peu naïf dans tout
Alors,
ça.
Alors, est-ce que Jean-Pierre Clamadieu, grand patron français, est naïf quand il considère que l'Europe est l'avenir de l'industrie européenne, Jean-Marc Daniel? Mais je le sens. C'est votre choix au Cherche-Midi.
Je le sens plus solide, moins naïf et moins utopiste. Alors, Jean-Pierre Clamadieu, il faut rappeler qui c'est à l'heure actuelle, c'est le président du conseil d'administration d'Engie. Une grande carrière d'industriel derrière lui, ingénieur de formation, il a fait l'école des mines de Paris. Et donc dans son livre, en fait, il y a trois récits. Il y a son récit un peu personnel, qui est, il raconte qu'il est fils de cheminot, qu'il appartient à une, ça va vous faire plaisir, ça, à la différence de Stendhal. Mais il est fils de cheminot, et il a vécu à une époque où le monde industriel était un monde assez paternaliste. On allait dans la colonie de vacances de l'entreprise. On allait il y avait des entreprises comme
les... Très chouette, les colonies de vacances de SNCF. Je vous recommande, Jean-Marc.
Il y avait un système de santé organisé autour de certaines grandes entreprises, notamment publiques. Donc il y avait une prise en main de la vie quotidienne des gens, de façon encore une fois paternaliste, pas agressive, pas métiétée, relativement bienveillante. Et donc il raconte comment effectivement il a grandi.
D'accord, l'Europe là-dedans.
Le deuxième récit, alors là c'est politiquement correct, il faut que l'entreprise fasse de la responsabilité sociale, j'évacue ça assez vite, on en arrive à l'Europe. Ah. Ce qu'il dit bien, c'est que effectivement l'avenir de l'Europe passera par l'industrie, mais il faut avoir une vision prospective de l'industrie et pas une vision nostalgique. Il dit bien à un moment donné qu'il faut que l'Europe se fasse à l'idée, par exemple, que la sidérurgie va disparaître en Europe. Que l'enjeu de l'Europe, c'est plus la sidérurgie, le textile, c'est le numérique, c'est la constitution d'un véritable tissu industriel axé sur les nouvelles technologies. Et donc il dit, le vrai problème d'une politique industrielle, c'est de ne pas avoir les yeux dans le rétroviseur, mais d'avoir véritablement les yeux vers l'avenir. Alors, il y a quelques propositions concrètes.
Vous savez quoi, Jean-Marc ?
Vous allez me dire que c'est assez banal.
Alors, je pense que vous parliez de tissu. Je crois que... Enfin, je sais pas, j'ai cette intuition que Christian va nous dire que c'est un tissu de banalité. Sauf s'il se trouve encore une fois et qu'il me prend à contre-pied, il se trouve que c'est un bouquin génial.
Je le pense aussi, mais on va voir.
Christian ?
Ça fait partie de ces livres de patrons que j'aime bien.
Il me surprend toujours.
Honnêtement, je pense qu'il y a 4-5 ans, ce livre n'aurait pas pu être écrit. Il y a un véritable changement. Ce livre est le symbole de ce qu'un dirigeant de grande entreprise française pense aujourd'hui. Et la mondialisation heureuse, vous vous rappelez, c'est terminé la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, Jean-Pierre Clamadieu, il nous parle d'indépendance de la nation, d'autonomie stratégique. Et il nous dit le cycle libéral, j'emploie ces mots, le cycle libéral de la mondialisation... Ouais. C'est terminé. Il crée des inégalités. Il y a eu trop de délocalisation de la part des grandes entreprises françaises. Et demain, le centre de la prospérité, le modèle de prospérité de demain, c'est de mettre le climat et le social au cœur du fonctionnement de l'économie. Et ça, je trouve que c'est c'est l'un des fils rouges du livre. Autre fil rouge, il faut donner plus de pouvoir aux salariés dans l'administration. Il faut avoir des représentants des salariés au conseil d'administration. Il faut des syndicats forts dans ce pays. Parce que c'est comme ça qu'une entreprise progresse en négociant avec des syndicats forts. Si Monsieur Clamadieu pouvait prendre la tête du MEDEF, on aurait un meilleur dialogue social dans ce pays. C'est ça qui est défendu dans ce pays. Il y a aussi, sur le côté, il faut rendre de la compétitivité à l'industrie française. pas une seule pleurnicherie sur le coût du travail, sur les impôts de production et tout ce baratin. Non, ce qu'il faut faire, c'est l'innovation. Et comme l'a bien expliqué Mariana Mazzucato, l'innovation, ça passe par une alliance privée-publique. Il n'y a pas le méchant État dispendieux d'un côté et les géniaux entrepreneurs privés de l'autre. C'est dans l'organisation des deux qu'on peut réussir à progresser. Et la fin, parce que vous avez interrogé Jean-Marc sur le sujet, toute la fin du livre, c'est un véritable rêve d'Europe. Là, encore une fois, pas de pleurnicherie. Un rêve pour demain, pour un grand patron, je trouve que c'est mieux que de toujours se dire aujourd'hui ça va pas. Non, il nous propose un rêve. Alors je pense qu'il rêve trop. Ouais. Je pense que l'Europe n'est pas aussi réveillée qu'il le pense avec l'Airbus des batteries, avec chips pour les semi-conducteurs, avec l'hydrogène, tous ces projets qui sont donnés. Mais au moins, il donne des perspectives d'avenir. Je crains malheureusement que l'Europe se réveille trop tard face à la puissance de la Chine et des États-Unis. Mais au moins, vous avez ce patron de grande entreprise, qui nous donne des perspectives d'avenir. Et pour tout ça, j'ai trouvé que c'est un livre intéressant.
Oui, ce qui lui a plu, c'est ce qui m'a un peu déplu. C'est-à-dire le côté RSE, le côté...
Ah, ça va au-delà de la RSE.
C'est pour ça que vous avez mis ça sous le tapis.
Mais finalement, il a rempli son rôle. Voilà. Il a rebondi là-dessus.
Voilà. Formidable. Très, très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve Stéphanie Collot qui nous projette dans un futur. Vous allez voir, je ne suis pas sûr qu'il fasse très envie.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Alors, vous nous emmenez à la fois aujourd'hui dans un futur très lointain, mais en même temps assez proche, hein, 2051, j'ai envie de dire, c'est presque demain, et pourtant.
Et pourtant, alors je vous emmène en 2051 avec le livre « Vision d'un monde meilleur » de Brice Le Blévenec, fondateur de l'agence digitale Imakina, avec 50 de ses consultants. Il écrit cet ouvrage de science-fiction réaliste, il dresse le tableau de ce que pourrait être la vie en 2051 en 30 articles consacrés à 30 thèmes allant du plus probable au plus loufoque, au plus délirant.
Alors, on est bien d'accord, c'est pas du roman, c'est-à-dire que ça repose sur l'état des connaissances
aujourd'hui. Sur des exemples concrets, etc.
Alors, commençons à balayer un peu le panorama, avec par exemple la nourriture. Qu'est-ce qu'on mangera en 2051?
Je ne pense pas que ça vous plaise, Emmanuel, parce que la nourriture en 2051, ça sera plus du carburant qu'une obsession. On va privilégier l'apport nutritionnel au goût.
D'accord.
Grâce à des appareils de santé connectés, on mangera que le strict nécessaire sous forme de substituts de repas ultra personnalisés, des boissons ou des poudres. La viande sera cultivée en laboratoire à partir de cellules souches animales. Je savais que ça allait pas vous plaire.
Bah, ça commence très mal, votre affaire.
Et ce sera aussi la fin de la nourriture anonyme grâce à la blockchain.
Je n'y crois absolument
pas. Qui va permettre le suivi.
Ça commence mal.
Et une traçabilité de l'ensemble de la chaîne.
Non, je n'y crois absolument pas. Ça ne se passera pas comme ça. Alors, en matière d'éducation, comment ça va se passer?
Alors là, on va enseigner...
Racontez-nous l'école de demain.
Alors là, on va enseigner grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les hologrammes. Mmh. Les élèves seront équipés de bandeaux autour de la tête qui va collecter les données et donner des instructions aux élèves par conduction osseuse, tout en transmettant les données sur les tablettes des professeurs qui pourront ainsi se rendre compte de la concentration en temps réel des élèves. Et les hologrammes vont aussi améliorer la mobilité des professeurs.
D'accord.
Pas sûr que ça fasse rêver non plus.
Oui, mais ça paraît plus efficace déjà. Quel type d'énergie utilisera-t-on?
Alors, l'énergie sera verte, l'eau douce illimitée, et pour y parvenir, il faudra intégralement repenser l'énergie nucléaire et abandonner l'uranium au profit du thorium, 3 fois plus abondant dans la croûte terrestre. Il produit beaucoup moins de déchets que l'uranium, avec une décroissance radioactive beaucoup plus rapide. Les centrales seront miniatures, de la taille d'une caravane. La matière première principale sera l'hydrogène vert, mais aussi blanc, là aussi présent dans la croûte terrestre. Et dans 30 ans, les maisons seront autonomes en énergie grâce aux panneaux solaires et aux centrales électriques individuelles. Donc.
Est-ce que nous serons bien soignés?
Alors, en fait, en 2051, selon les auteurs, on payera chacun un abonnement santé, tout compris, qui va proposer un programme intégral pour la santé mentale et physique. Des assistants virtuels et des experts en santé vont surveiller en temps réel nos vies et nous envoyer des recommandations sur l'alimentation, le sport, le sommeil. Prévenir plutôt que guérir, c'est la base finalement de la médecine orientale. Et ça aura pour conséquence moins de maladies, moins d'hospitalisations, donc moins de coûts.
Comment est-ce qu'on travaillera?
Alors là, au travail, la présence virtuelle deviendra la norme. Facebook lancera des salons virtuels de travail qui seront nos futures salles de réunion, en quelque sorte. Conséquence, les bureaux seront remplacés par des espaces verts dans les villes. Grâce au métaverse, on pourra tout faire depuis notre domicile, travailler, faire ses courses, jouer avec ses amis, visiter nos proches. Et en 2051, le métaverse fera partie de notre vie quotidienne. Plus d'un quart de la population humaine tirera ses revenus de cet univers, puisque l'économie réelle sera fortement robotisée. Ça sera en fait la nouvelle normalité, en quelque sorte.
Et alors, pour achever de nous démoraliser, il y a pire encore que la façon dont on va se nourrir, il y a la façon dont on va partir en vacances.
Ouais, partir en vacances et même vivre, tout simplement. Alors là, on va très très loin, on part vraiment dans la fiction. On pourra se mettre en hibernation, figurez-vous. À partir de 2050, les vacances dans le coma volontaires seront un moyen original d'échapper à la réalité pendant 6 mois ou 1 an, avec téléchargement à vie du cerveau dans le cloud. Ce sera l'ère du super-humain connecté. Des implants neuronaux seront intégrés directement dans nos cerveaux. L'Internet d'hier fera partie de nos vies. Ce sera l'ère de l'intelligence suprême. Le monde sera interconnecté directement via nos cerveaux, effaçant toutes les limites géographiques. La forme ultime du transhumanisme, en quelque sorte, qui nous permettra de voyager à la vitesse de la lumière. Je vous l'avais dit, on part très très loin. Il parle de la science-fiction aujourd'hui, mais selon les auteurs, il serait dangereux de ne pas la prendre au sérieux.
Eh ben, c'est dit. Non, il y a des choses intéressantes.
C'est très documenté. Il y a des exemples.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
Il y a toute la recherche de Google, de Facebook, etc. C'est passionnant.
Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, on revient, j'allais dire, à notre époque. Voilà. Mais cette fois-ci, on va faire le tour du monde avec Benaouda Abdelhaim.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Allez, on continue à explorer des études que vous avez été dénichées dans le monde entier au sujet de toujours cette thématique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, vous attachez aux notations de défaut de la Russie comme les économies de l'Iran et de la Corée du Nord.
Alors, a priori, ces deux économistes ne travaillent pas pour l'organisme le plus hostile à l'État russe. La RBI, c'est une grande banque autrichienne, celle d'Europe qui compte, tout cas, ou plutôt comptait, et de loin, les plus importants intérêts en Russie, en Biélorussie et en Ukraine aussi, en proportion de son activité comme de son résultat. Alors, Günther Döber et Jörg Bayer soutiennent ici que la Russie vit en ce moment un séisme économique, financier, social, comparable à celui qu'a connu l'Iran au lendemain de sa révolution de 1979. Ils vont plus loin encore dans le parallèle, en effet, on le voit dans le titre, en évoquant la Corée du Nord, qui représente pourtant l'isolement le plus poussé à l'échelle internationale. Ils dénombrent une spirale de sanctions extérieures, pour l'essentiel occidentales, et font le constat clinique, déjà établi en fait, d'un retrait du secteur privé étranger à une échelle et à une vitesse, je cite, sans précédent dans l'histoire économique moderne. Ces experts en sont déjà à prédire qu'un administrateur d'insolvabilité devra être attaché à nombre d'entreprises russes de premier plan dans les matières premières. Ils évaluent aussi une perte de prospérité dévastatrice, qui risque ainsi de se rapprocher de celle de l'Iran post-révolution, avec un produit intérieur brut qui s'était contracté dans les années 80, en très peu d'années, somme toute, de 50 à 60%.
Ah ouais.
Alors, même si leurs projections macroéconomiques annoncent un effondrement à court terme, quand même moins prononcé, parce que les ressources de la Russie sont toujours là, elles sont diversifiées, et qu'elle a des options commerciales de taille, notamment avec la Chine, ces deux experts de banque autrichiens sont toutefois de ceux qui pensent que les Chinois auront le soutien économique direct et indirect mesuré afin de ne pas nuire à leurs intérêts internationaux qui sont bien plus larges. D'après leur analyse, le contrepoids chinois sera de toute façon insuffisant face au tumulte politique à venir à l'échelle nationale en Russie, à l'envolée des dépenses militaires, à l'exode des entreprises nationales et étrangères, et surtout, écrivent-ils, celui à redouter, c'est celui de la main-d'œuvre nationale qualifiée, une nation majeure qui vivrait ainsi une perte de force vive très grave. C'est en tout cas cela leur thèse.
Quel sera l'impact de la guerre sur le développement en Ukraine, Benaouda ?
Les projections initiales. Alors, les organisations multilatérales commencent elles aussi à élaborer leur scénario. Ici, ceux du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui évoque là, c'est toutes premières projections. Alors, les estimations de ces experts, c'est que 90% de la population ukrainienne pourrait être confrontée à une vulnérabilité économique extrême. Ouais. Si la guerre venait à se poursuivre, bien sûr, en renvoyant là le pays des décennies en arrière. Alors, dans cette hypothèse la plus pessimiste d'un ancrage du conflit, 62% des Ukrainiens qui seront restés risquent de basculer dans la pauvreté et près d'un tiers de la population passerait même à terme sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire selon le critère retenu à 5,5 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat. Le PNUD qui met en avant ici son travail avec les institutions nationales, mais aussi un réseau avec les collectivités locales, avec les organisations professionnelles, les associations d'entreprises. Alors, quelles sont alors les évaluations? Au moins 100 milliards de dollars d'infrastructures publiques déjà détruites, la fermeture complète de la moitié des entreprises et l'autre moitié contrainte de fonctionner très au-dessous de leur capacité. Les auteurs plaident alors pour un système à grande échelle d'opérations de transfert d'argent en urgence. Alors, leur calcul, c'est 250 millions de dollars environ par mois afin de couvrir partiellement les pertes de revenus de 2 600 000 personnes, celles qui sont vraiment les plus vulnérables. L'autre idée, c'est d'instaurer un revenu de base de 5,5 dollars par jour. C'est le seuil de pauvreté à préserver. Et pour ça, il faudrait réunir 430 millions de dollars par mois, ce qui correspondrait à un effort international de 5,2 milliards de dollars de financements internationaux. Alors, les solutions éventuelles et la validité des scénarios, bien entendu, établis dans ce document, dépendent de la suite des événements sur le plan militaire, ce qui n'est pas du ressort des auteurs en question.
Et on termine, Ben Aouda, toujours sur la Russie et l'Ukraine, mais alors cette fois-ci avec une vision chinoise de la crise.
Russie et Ukraine dans la grande perspective et sur le petit échiquier. C'est l'universitaire canadien David Hornby qui nous a fourni les éléments de contexte de ce texte qui vraiment sort de l'ordinaire. Il a été rédigé par un professeur émérite de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Suan Liping est catalogué en Chine comme intellectuel libéral en matière politique et sociale. Il intervient beaucoup, souvent, dans le débat public. Et à noter que ce texte a été retiré du fil WeChat de l'auteur, par les autorités, bien sûr, mais qui a été retrouvé après sur Internet. En tout cas, il est encore disponible. Il n'apporte pas son soutien, l'auteur, à l'invasion de l'Ukraine, tout au contraire. Ce chercheur considère que l'Alliance Atlantique, en poussant toujours plus vers l'Est, a rendu le Kremlin très anxieux, de plus en plus, mais cela ne justifiait pas, à ses yeux, une telle réponse armée. Alors, vu de Chine dans une perspective mondiale, quoi qu'il en soit, à présent, l'auteur estime que la Russie ne représente pas un enjeu suffisamment majeur pour tenter de contrer l'alliance anti-russe qui est en train de se monter entre Européens, Américains, Japonais et Canadiens. Alors, il est frappant de voir comment cet intellectuel chinois prend vraiment de haut cet immense voisin. Une citation.
Ah oui.
La Russie n'est plus un protagoniste sur la scène mondiale, mais au mieux un pion dans le grand schéma des choses. Ils poursuivent un peu plus loin. Les États-Unis ne prendront pas pour adversaire numéro un pays dont la puissance économique est à peine égale à celle de la province du Guangdong, une province chinoise. Fin de citation, je ne vais pas vous tous vous les faire, ça vous dit un peu la façon dont ils voient cette Russie immense par la taille, mais petite par l'économie. Alors, on retrouve en creux vraiment tout un courant de pensée en Chine pour lequel les structures économiques reste beaucoup trop en retrait avant même ces événements pour qu'elle soit digne d'être prise en considération par celle qui va devenir la première économie au monde, c'est-à-dire la Chine. Et le chercheur écrit, alors que l'invasion de l'Ukraine a beau être un énorme événement de politique internationale, dans une perspective plus large, cela reste une petite partie d'échec. L'intellectuel chinois va jusqu'à prédire un déclin inéluctable de la Russie, au terme duquel c'est elle qui pourrait devenir une zone tampon entre les grandes puissances, Europe, États-Unis, Chine, en quelque sorte comme l'Ukraine d'aujourd'hui.
Passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Alors, j'ai encore choisi le livre d'un patron, mais cette fois-ci d'un patron de banque. C'est le livre « Crise et mutation, petite leçon bancaire » aux éditions Erol de Olivier Klein, qui est à la tête d'une grande banque. Et donc là, c'est un peu le même schéma. Il décrit à la fois son passé, son quotidien, et puis les perspectives de la banque, avec cette idée qu'il rappelle régulièrement que crédit et confiance, c'est le même mot. Et donc, le système financier repose beaucoup sur la confiance, et donc il faut se méfier de tout ce qui peut altérer la confiance, nuire son image de marque, etc., etc. Donc c'est objectivement c'est moins bien que le Clap à Dieu, mais c'est un bon livre malgré tout.
Très bien. Christian Chavagneux.
Je reste aussi dans la même ligne, puisque un livre d'un autre écolo, Alain Lipietz, qui revient avec un livre, donc un ancien économiste de la régulation, puis qui a basculé dans le monde politique en étant député. Nous ne sommes pas face à l'urgence écologique, nous dit Alain Lipietz, mais à la toute urgence écologiste. Il définit ce que c'est. Il fait une analyse de où sont les rapports de force politiques aujourd'hui pour essayer de faire progresser la cause écolo ou pas. Et puis la dernière partie, c'est sur des propositions. Il souhaite mettre en œuvre un réformisme radical. Et donc, il nous explique ce que c'est le réformisme radical, économiser en gros sur le facteur nature, comme il le dit. Et tous ceux qui croient encore que les écolos sont contre l'innovation, je les invite à lire ce livre et verront que ce n'est pas du tout le cas.
Allez, formidable. Bah, écoutez, moi, j'ai choisi de vous parler. Alors, les patrons, ils écrivent en ce moment, c'est incroyable. On reçoit un nombre de livres de patrons, mais moi, j'ai bien aimé celui de Dominique Schelcher, le président de Système U. Alors, on est exactement dans la même veine que le Clap à Dieu, mais le Clap à Dieu décrit par Christian Chavagneux.
Système U, bien sûr.
Par Jean-Marc Daniel. Système U, donc système coopératif, le bonheur est dans le prêt, prêt de proximité, évidemment, c'est vraiment... Alors, Dominique Schelcher, il est à la fois au quotidien patron de magasin, et puis il est président de Système U, donc c'est un très bon... point d'observation pour à la fois observer les grandes tendances de la consommation, nous dire comment il voit évoluer la distribution. C'est extrêmement intéressant. Donc Dominique Schelcher, le bonheur est dans le prêt. C'est aux éditions L'Archipel. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.